renoncer à présenter le diapo que j'avais pensé en simplement vous présenter, en vous présentant, voilà, en gardant, si vous le voulez bien, et c'est l'occasion de vous remercier pour cette invitation, cette unique sentence d'un philosophe pas souvent cité dans nos milieux de l'éthique médicale, et qui nous rappelle que la péninsule, ou que, disons, les îles britanniques font partie de l'Europe culturelle, ce dont personne ne doute. Vraiment, merci de m'inviter parmi vous ce soir. Je voudrais rester assez près de ce qui vient d'être dit, et c'est pourquoi je fais le deuil, n'est-ce pas ? Je fais le deuil de l'exposé auquel j'avais songé, et qui vous sera peut-être infligé une autre fois, hein, tout peut arriver dans la vie. Mais vraiment, j'ai entendu ce soir dans ces deux exposés un certain nombre d'éléments que j'aimerais mettre en lumière, mettre dans ma lumière, moi qui viens du Nord, en laissant voir peut-être l'une ou l'autre aspérité. Et donc, je voudrais juste pour jouer l'écho, évoquer 6 ou 7 éléments. Et puis, Monsieur le Président, je compte sur votre bienveillance soignante pour m'interrompre au bout des 15 minutes que vous m'avez accordées et que j'ai entamées, bien entendu. Alors, pour le dire de façon un tout petit peu rapide, mais je vais essayer de travailler de cette manière-là, si vous le voulez bien, j'ai envie de vous dire que il est important, dans les questions qui sont les nôtres, de prendre acte de 2 choses. 1, les facs de médecine n'ont pas le monopole de la maltraitance pédagogique. Il faut mettre parmi les autres institutions pédagogiques d'autres institutions que je fréquente. Je dois à la vérité de vous dire que je suis chargé de l'enseignement. Je suis responsable de l'enseignement de l'éthique à la faculté de médecine de mon université, qui est l'Université catholique de Louvain, et que je suis actuellement président du comité national de bioéthique, à qui, jusqu'à présent, on n'a jamais soumis de questions relevant de l'éthique, de la pédagogie, des sciences du soin. Voilà, je le dis en passant. Alors, premièrement, les facs de médecine n'ont évidemment pas ce monopole, puisqu'elles partagent avec d'autres institutions pédagogiques cette curieuse capacité ou cette curieuse caractéristique d'être faite par des humains. C'est bien ce que vous avez dit. Une institution, en tout cas les institutions qui nous intéressent, sont largement pilotées, j'y reviens dans un instant, par des êtres humains. C'est une manière de dire que les institutions les plus belles sur le papier sont évidemment contaminées par les qualités et les défauts de ceux qui les font vivre, comme dans n'importe quel théâtre de marionnettes. C'est une première mise au point. Deuxième mise au point, en termes de patronage de nos travaux, de nos réflexions, je crois qu'il est temps de quitter, sans l'abandonner tout à fait, quelqu'un comme Lévinas, pour en arriver à penser l'éthique avec quelqu'un comme Crozier. Qu'est-ce que j'essaye de dire en disant ça, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait juste? J'essaie de dire qu'il est important de rappeler, comme le fait John Locke, qu'il est important de rappeler que les questions qui nous préoccupent ce soir sont des questions de raison et de rationalité. Mais naturellement, d'une raison et d'une rationalité qui soient larges et qui laissent toute sa place au spirituel, au monde du sens, à l'émotion, à ce que je vais nommer bientôt l'intelligence émotionnelle, qui est un élément majeur, vous le savez beaucoup mieux que moi, est un élément majeur de la pratique clinique. Et donc, en pensant les choses en termes peut-être moins humanistes ou humanisants, et en voyant mieux les choses de façon plus organisationnelle ou institutionnelle, je pense que nous faisons un gain de lumière, nous mettons en lumière des éléments qui autrement seraient cachés peut-être dans une éthique un peu traditionnelle. C'est une manière pour moi de vous dire que, à mes yeux, il est devenu urgent de parler des éthiques au pluriel, non seulement l'éthique du soin, l'éthique des soins que vous et moi nous pratiquons, que peut-être aussi nous enseignons, cette éthique qui est parfois l'éthique du face-à-face ou du colloque singulier, qu'il est grand temps de penser évidemment l'éthique de la collectivité, du travail ou de l'intermétier, du travail partagé en équipe justement, qu'il est temps aussi de penser l'éthique de l'organisation. Je viens d'y consacrer un livre tout juste, tout frais sorti, l'éthique de l'organisation des soins de santé. Il y a bien des pathologies éthiques qui viennent de l'organisation elle-même, hein, et des calendriers et des agendas qui sont prévus, sans parler de, ça c'est un peu mon dada actuel, sans parler de la méta-éthique, parce qu'après tout, je crois qu'il serait naïf de le penser autrement, l'éthique n'est pas elle-même immunisée, hein, d'un certain nombre de pathologies qui vont peut-être d'ailleurs s'associer à ce tissu mou très particulier qu'est l'éthique, certaines pathologies qui sont gravissimes, bien entendu, puisque en croyant faire du bien, on risque de faire doublement du mal. Ayant dit ces deux choses au départ, et ne pensant pas être en contradiction avec ce que vous avez posé, mais en faisant allusion au fait que ces situations crues, terribles, que je rencontre aussi avec mes propres étudiants de premier et de deuxième doc essentiellement, nous contextualisons les choses et nous mettons sur la piste de transformation ou de changement d'intervention possible. Trois petites choses, si vous le voulez bien, de façon plus nodale. Premièrement, je crois qu'il n'est pas inutile d'évoquer ici la pensée de Michel Henry, et tout particulièrement ce texte que vous connaissez, qu'il a consacré à la barbarie, en parlant pour une fois non pas des autres, parce qu'il est bien connu que les barbares c'est toujours les autres, mais en parlant de nous-mêmes, nous les occidentaux, les scientifiques, qui sommes devenus des visionnaires un peu myopes, puisque nous, les scientifiques, nous pensons les choses en termes d'objets, plus tellement en termes de subjectivité. Nous pensons la segmentation des savoirs et des disciplines. Nous pensons, au fond, la difficulté d'un dialogue qui devient quasiment impossible, alors que, effectivement, le grand rationalisme, Michel Henry reprend cette formule à Merleau-Ponty, le grand rationalisme, c'est cette époque culturelle où l'on travaille bien ensemble, toute discipline associée véritablement. Moi, je pense que nos institutions pédagogiques sont largement victimes de cette barbarie, que ça tient à notre façon pseudo-rationnelle de fonctionner, puisque de plus en plus nous singeons les machines que nous avons mises au point, en pensant que la raison est binaire, par exemple, que les langages sont objectifs, et puis ce genre de fiction qui nous empoisonne la vie jusqu'au moment où nous devenons trop faibles pour pouvoir encore y penser et où peut-être nous en sommes libérés. Donc ça, pour moi, c'est une première cible. Viser véritablement cet aspect de barbarie qui touche, je veux vous le dire, non seulement les facultés de médecine, mais par exemple, pour prendre un autre exemple de lieu extrêmement stratégique dans nos cultures, les écoles de commerce ou les écoles de management qui ont en commun de former des professionnels pointus, certains étant formés à Harvard, ce qui n'est pas de mauvais pronostic, hein, je tiens à vous rassurer tout de suite, effectivement, mais qui ont en tout cas en commun de devoir décider de près ou de loin du destin d'autres personnes. Deuxième élément, après la barbarie, et c'était l'occasion de vous dire qu'en acceptant votre invitation, je n'avais pas choisi de me faire plaisir ou de faire plaisir dans ce que je voulais dire, puisque j'étais invité en ami et en voisin, juste pour dire ce que je pense, hein, et c'est donc ce que je suis occupé à faire. Deuxième élément, je pense que ça apparaît clairement des témoignages, et c'est plus que des témoignages, ce sont des analyses que vous avez présentées. Je crois qu'à notre agenda pédagogique, il est fondamental de mettre une priorité d'objectif dans ce que je pourrais nommer la capacité narrative de nos étudiants. Quel que soit leur cursus de formation, nous devons apprendre ou peut-être réapprendre à nos étudiants qui, vous le savez, sont généralement de très belles personnalités, qui possèdent toutes sortes d'habiletés ou toutes sortes de capacités qu'ils ne vont pas mettre en action pendant leurs études. Il est important de leur réapprendre à raconter des histoires. C'est la seule manière, me semble-t-il, de garder sa conscience ou son âme dans sa vie, en me racontant ma propre histoire, mais ça va devenir une compétence clinique tout à fait essentielle avec le temps, d'autant que l'histoire, comme le filet à papillon, capte ou capture des choses que les lames de nos microscopes ne parviennent pas à élucider. Capacité narrative, facile à dire entre nous, vous me l'accordez sans trop de difficultés, le doyen de la faculté n'est pas là, ça serait intéressant de voir comment en faculté de médecine on peut soutenir cela, aux dépens de quelle matière, aux dépens de quel secteur. J'ai personnellement une grande amitié pour mon collègue qui enseigne la cardio dans ma faculté. C'est un débat permanent entre nous sur quel secteur on va récupérer ce temps passé à l'apprentissage de la capacité narrative. Autre élément que je voudrais mettre en cause ou évoquer, pour éviter précisément de développer une éthique des belles âmes, comme disait Hegel, c'est-à-dire une éthique idéalisée, qui finalement ne tient pas la route, surtout par gros temps, important d'évoquer qui nous sommes aujourd'hui, nous les professionnels, vous les médecins, vous les infirmières, vous les kinés, vous les sages-femmes, vous les aides soignantes, vous les sous-contrats, etc., etc. Quel est le type de socialité professionnelle qui est le nôtre? Je pense que, il me semble qu'en posant cette question de la socialité, c'est un phénomène que j'étudie d'assez près avec mes amis médecins en Belgique, en étudiant comment, entre les professionnels, s'est instauré depuis peut-être longtemps, mais de façon radicale aujourd'hui, s'est instauré une forme de méfiance qui a quelque chose de néolibéral, mais qui a en tout cas quelque chose de fondamentalement concurrentiel. En instaurant cette espèce de climat de tension, de défiance, qui remplace d'une certaine manière une forme de confraternité, parce qu'après tout, c'est les termes que la plupart de ces métiers développent, le thème de confraternité, certains auteurs ont pensé qu'en développant cette espèce de méfiance ou de distance, on s'éloignait d'un modèle que l'on pourrait qualifié de mafieux, où d'une certaine manière on se cache, on se protège dans une espèce de coalition ou de complicité généralisée. J'ai étudié ça d'assez près, y compris avec certains ordres médicaux dans mon pays, et nous avons observé la chose suivante. C'est que des professionnels qui se sentent eux-mêmes menacés par leurs consoeurs et leurs confrères, et je parle des médecins, mais je vous rappelle que je parle aussi des infirmières, je parle aussi des aides-soignantes, sont évidemment des professionnels qui ne sont pas stabilisés dans une forme de confiance et qui ne vont évidemment jamais soutenir des processus de confiance, des processus de partage, des processus où l'on peut dire, se dire, les limites qui sont les siennes, les difficultés que l'on peut avoir. Il s'agit au fond d'un double refoulement. La question n'est pas simplement psychique, elle est largement psychosociologique. Il faut la rencontrer comme telle. Je sens que je deviens déjà un peu long. J'essaye d'être toujours désagréable mais pertinent. Mais être long, ça serait vraiment pas gentil. Et donc je vais conclure sur deux choses. Et puis j'espère que nous avons un peu de temps pour discuter. Par rapport au modèle, au paradigme de l'expertise, qui est un paradigme assez intéressant, je voudrais en proposer un autre, plutôt que l'expertise, le paradigme de l'expérience. Alors, mes étudiants ont l'habitude de m'entendre parler là-dessus, puisque je reviens sur cette idée que l'expérience, d'abord c'est un mot extrêmement riche, dont les sonorités indo-européennes, hein, qui nous sont peut-être un peu dissimulées là, mais je vous rappelle qu'il y a une racine indo-européenne là derrière, la racine indo-européenne qui dit ce mot d'expérience renvoie à peri, expérience, c'est-à-dire à periculum, c'est-à-dire au danger. Erfahrung, en allemand, renvoie à Gefahr, Erfahrung, en néerlandais, renvoie à Gevaar. L'expérience est une forme de familiarité avec le danger. Ce n'est pas pour autant une conduite à risque. Mais c'est tout de même quelque chose de profondément existentiel qui renvoie à cette capacité de rencontrer le danger, non pas pour le sous-estimer, mais parce qu'on est appelé, à œuvrer au bord du gouffre ou au bord du volcan, si vous voulez, pour reprendre ces images de la littérature américaine. L'expérience est en moi une expertise purement cognitive et, disons rapidement, hémisphérique gauche chez les droitiers, mais quelque chose de bien plus intégré, de bien plus global. Deuxième petite chose, il y en aura finalement trois dans ma conclusion, je suis très heureux d'entendre quel est votre agenda par rapport aux questions qui sont les vôtres, et je me permets de vous renvoyer un site dont vous pourrez trouver facilement l'adresse sur Internet, qui est le site d'un groupe de recherche action que nous avons fondé il y a quelques années maintenant à Paris, en partenariat avec mon université, qui s'appelle le GFERS, ça s'écrit comme ça se prononce, le GFERS, et où nous avons tenu l'an dernier au Sable d'Olonne un colloque sur précisément l'éthique de nos processus pédagogiques, et c'est pourquoi je vous en parle, nous tiendrons un même colloque au mois de mai 2015, toujours au Sable d'Olonne, sur le même sujet. Je termine avec une évocation grecque, la philosophie l'impose presque, il y avait aussi du chinois dans ma présentation, mais ce sera pour une autre fois, encore que, je parviendrai à le dire, vous avez très bien rappelé qu'à l'origine du mot violence, l'origine indo-européenne, il y a bien ce grec via, bia, hein, via, qui renvoie à une espèce d'énergie vitale, de forme vitale. Les Chinois, confucéens notamment, vous le savez sans doute, développent un concept qui est assez proche de celui-là, qui est le concept de qi, qui renvoie en réalité au souffle. Et la suggestion grecque que je voudrais faire ce soir, c'est tout simplement de dire que par rapport à ce via qui nous habite, cette force éventuellement dévorante, dévastatrice, mais qui est aussi cette forme d'énergie, nous avons, nous, comme humains suffisamment cortiqués, en tout cas tant que ça nous est offert encore, comme humains suffisamment cortiqués, nous avons à penser le passage ou la transformation, sinon la sublimation, de ce bia, ce souffle comme force, en pneuma, c'est-à-dire ce souffle comme esprit. Après tout, c'est peut-être ça ce que nous pouvons faire avec toute cette violence, qui n'est pas simplement la violence des eaux usées et de leur boue, mais qui est cette espèce de magma informe dont on ne sait que faire et qu'on ne peut pas simplement réduire. Eh bien, il y a peut-être une technologie proprement humaine, philosophique, qui consiste à transformer ce bia, souffle lourd, en pneuma, souffle de l'esprit. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.